prenez par exemple c'est bien ça, et bien c'est seulement en l'écoutant, parce qu'on peut dire c'est bien ça, très gentiment, c'est bien ça.
Bonjour au Book Club.
C'est bien ça.
J'ai découvert Pour et pour un nom cette année. J'ai trouvé ce livre intéressant. J'ai aimé le fait que cela devienne une machine infernale.
C'est bien ça.
Pas tout à fait ainsi.
C'est-à-dire que chaque nouvelle réplique met de l'huile sur le feu.
C'est bien ça.
C'est intraduisible.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Deux amis d'enfance, deux hommes devenus adultes et quatre petits mots qui font tout dérailler. Quatre petits mots et une intonation, une manière de les prononcer, quelque chose de tout à fait infime et pourtant. C'est bien ça, a dit le premier au second, et alors une distance s'est installée. Car les mots et tout ce qui se joue derrière eux peuvent blesser. Ces deux hommes sont les protagonistes d'une pièce de théâtre de Nathalie Sarraute qui s'appelle « Pour un oui ou pour un non ». Parue en 1982, elle compte parmi les œuvres au programme du bac français. Pour toutes les lycéennes et les lycéens qui le révisent ces jours-ci, et pour tout le monde aussi, on en parle aujourd'hui. À 15h50, comme chaque mercredi, place à la littérature jeunesse. L'autrice française Marion Brunet a reçu le prestigieux prix Astrid Lindgren. Raphaël Bott nous fait découvrir son œuvre. En fin d'émission, comme chaque jour, on jouera à trouver de la musique dans un livre pour se quitter en chanson. On est ensemble pour une heure et c'est bien ça. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour à vous, Hélène Batty de Lalande.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi. Vous êtes maîtresse de conférence en littérature à l'université Rennes 2 et vous avez à l'automne dernier, je crois, donné une conférence destinée aux professeurs de première, amenée à enseigner cette pièce de théâtre pour un oui ou pour un non. Conférence passionnante et qui nous a donné l'idée, l'envie de vous recevoir. Bienvenue à vous. Et Swann Spies, bonjour.
Bonjour.
Merci aussi d'être là. Vous êtes quant à vous professeur de lettres et de cinéma audiovisuel au lycée François Truffaut de Beauvais, dans l'Oise. Vous participez aussi depuis plusieurs années à l'écriture de manuels parascolaires. Vous avez notamment signé pour les éditions Attier le profil bac, cette fameuse collection de manuels de poche pour aider à réviser le bac, sur Pour un oui ou pour un non, avec Julie Dupont et Bérangère Touet. Merci beaucoup d'être là et bienvenue aussi. Je l'ai dit, Pour un oui ou pour un non est au programme du bac français. Avant qu'on parle plus concrètement de cette pièce, est-ce que vous pouvez nous dire, Swann Spies, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire, elle est au programme du bac français, quels sont les types d'épreuves que les élèves peuvent rencontrer sur cette pièce, dans quel cadre général ça se passe du point de vue des programmes?
Alors oui, cette œuvre, elle est au programme du baccalauréat en français depuis cette année pour 4 ans. Et dans quelles circonstances elle peut apparaître, notamment dans les épreuves? Alors, elle peut faire l'objet d'une dissertation à l'épreuve écrite du bac de français, la dissertation porte sur le théâtre. Il y a une chance sur 4, voilà. Et également, elle peut apparaître, cette œuvre, dans l'épreuve orale, peut-être encore plus significativement, puisque si le professeur l'a choisi, puisque je rappelle qu'il y a un choix du professeur entre 3 œuvres théâtrales, mais si le professeur l'a choisi...
Oui, c'est-à-dire que le professeur est obligé, parmi toutes les œuvres qu'il va enseigner dans l'année de première, de choisir une œuvre théâtrale, organisée par différentes catégories, mais il y a 3 pièces de théâtre au programme, c'est soit Nathalie Sarraute, soit Corneille...
Soit on peut aller sur Le Menteur de Corneille, voilà. Ou alors On ne badine pas avec l'amour,
okay, voilà, de Musset.
Et donc... Le cas échéant, si le professeur choisit pour un oui ou pour un non, l'élève peut être amené à l'épreuve orale cette fois-ci, en première partie d'épreuve, à peut-être étudier, analyser en fait un texte issu de cette œuvre, parmi tous les textes qui auront été vus pendant l'année. Et également, en deuxième partie d'épreuve orale, il y a la présentation d'une œuvre et un entretien avec l'examinateur. Et cette œuvre, elle est au choix du candidat. Voilà. Donc, les élèves, s'ils le souhaitent, s'ils la choisissent, peuvent aussi l'utiliser comme support de la deuxième partie de leur épreuve orale.
En préparant cette émission, on a parlé un peu avec les professeurs de français qu'on connaît autour de nous, comme ça. Et on a eu l'impression que c'était pas forcément l'œuvre théâtrale qui était la plus choisie par les professeurs de français. Alors, c'est pas des chiffres officiels, hein, mais sur un sondage très empirique comme ça, plusieurs personnes nous ont dit « Ah oui, mais pour un oui ou pour un non, c'est pas forcément la plus facile à enseigner. » Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et peut-être pourquoi on peut dire que Messi, quand même, c'est chouette de l'enseigner, cette pièce-là.
Alors, c'est sûr que la concurrence de Musset est quand même assez signifiante, hein, significative, parce que bon, c'est peut-être un terrain un peu plus connu aussi. Mais il y a vraiment des pistes que l'on peut suivre sur Pour un oui, pour un non, qui peuvent être très satisfaisantes à étudier avec les élèves. Notamment, je pense à un enjeu qui marche très très bien avec les élèves, c'est la question de l'amitié. Mmh. La question de l'amitié qui leur parle beaucoup, cette amitié qu'on imagine tenir parfois pour toute une vie, surtout à leur âge, et qui finalement vole en éclats sur quelques mots qui peuvent apparaître un peu comme des broutilles. Donc ça, c'est vraiment une question qui peut être très porteuse, notamment en début d'études, par exemple, de l'œuvre, de leur poser la question, quels sont les mots qui pourraient, pour vous, faire vaciller vos amitiés. Il y a d'autres enjeux qui sont intéressants aussi pour les élèves, hein, dont les élèves s'emparent plutôt bien. La question du langage, hein, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis du langage, ces mots qui sont comme des pointes un peu d'iceberg, mais qui cachent beaucoup sous la surface et qu'il faut essayer de déchiffrer un petit peu, notamment à l'heure des réseaux sociaux. Ça fait quand même écho à beaucoup de choses qui sont assez dans leur tête un peu... quotidiennement.
Et contemporaine.
Et très contemporaine. Mmh. Voilà, c'est pour ça que la pièce peut avoir une résonance contemporaine très forte. Et également, peut-être, la question du regard d'autrui. La place que l'on peut se faire avoir dans la société. On a quand même deux personnages qui, même si on ne peut pas s'identifier directement à eux, ils n'ont pas le même âge que les élèves, évidemment, mais ils ont quand même deux caractères opposés, deux visions aussi du monde qui sont assez opposées et complémentaires à la fois. Donc ça peut être intéressant pour les élèves aussi de se positionner par rapport à ça.
Hélène Batty de Lalande, sur cette question, en quoi ça peut parler à des élèves qui ont 16-17 ans, cette pièce-là ?
Eh bien, j'aurais envie de poursuivre sur la même voie que vous, Swann. C'est effectivement cette question du presque rien. Alors dans la pièce, il y a cette formule, hein, ce qui s'appelle rien, et vers la fin de la pièce, est devenue une lutte à mort. Alors, qu'est-ce qui fait que le rien est finalement le point de départ, non pas qui va déclencher la lutte à mort, mais la révéler? Parce que ce qui est terrible, c'est qu'au début de la pièce, bon, ils se sont probablement brouillés, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, mais le « c'est bien ça » apparaît comme l'ultime épisode d'une série de micro-vexations. En tout cas, c'est comme ça qu'on aurait peut-être envie, à première vue, de les considérer. Et en fait... à chaque fois, c'était dramatique. Une petite promenade en forêt, sympathique. Et tout le monde a envie de tuer le pauvre H2, qui a aussi envie de tuer les autres, d'ailleurs.
Alors, hein. À ce stade, il faut peut-être essayer de faire cette chose pas facile, mais quand même résumer un tout petit peu la pièce pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, peut-être même les lycéens, les lycéennes qui n'ont pas cette œuvre-là au programme. Hein. Dire en deux mots, nous avons donc deux hommes qui ne sont pas nommés quand on lit la pièce, ils sont désignés simplement par cette formulation H1 et H2, il n'y a même pas de prénom, qui se retrouvent. On comprend assez rapidement qu'ils se connaissent depuis l'enfance, c'est des amis de très longue date, et puis l'un a senti que l'autre s'est éloigné, et ça commence comme ça, il lui demande, mais je sens un éloignement, d'où vient-il? Et puis, est-ce que vous pouvez poursuivre ce début de résumé que j'essaye de faire, Hélène Batty de Lalande?
Alors la pièce ne permet pas de faire ce résumé quand on ne l'a pas encore écoutez jusqu'à son terme, puisque tout cela, on ne peut le reconstituer qu'une fois qu'on a retrouvé tous les petits cailloux que sème le dialogue. Effectivement, au début de la pièce, deux voix, H1, H2, alors Sarraute a l'habitude de désigner ainsi ses personnages au théâtre, ceux qui portent un nom, c'est mauvais signe. Voilà, je ne veux pas détailler ça, mais en tout cas, ça ne doit pas nous arrêter, cette abstraction. C'est quelque chose qui permet de dépouiller les voix et de laisser toute la place pour le langage, les émotions et puis ce qu'on peut imaginer. Donc, ils se retrouvent, ces deux hommes, après une séparation qui n'a pas été souhaitée par l'un d'entre eux. Et la tentative de... l'un d'eux demande des explications, l'autre tente de résister en disant « si je te le dis, ça va être pire ». S'il te plaît, dis-moi, ça va être pire. S'il te plaît, dis-moi. Ah bah, tu vois que c'est pire. Et de fait, c'est pire et ça va de plus en plus mal jusqu'à la fin où on est face à quelque chose de très étrange. Alors là, je vais ne pas trancher pour les lycéennes et les lycéens qui ont travaillé la pièce parce que c'est une vraie question. Est-ce que finalement, à la fin, il y a quelque chose comme une réconciliation possible, en tout cas, une harmonie, un pas de deux? Ou est-ce qu'au contraire, bah, il y a celui qui va rester du côté du non, ou celui qui reste du côté du oui? Et puis terminé. Que faire à partir de ces deux mots-là?
À ce stade, et on va revenir bien sûr sur le déploiement de cette intrigue, entre guillemets, il faut peut-être quand même un peu présenter qui est Nathalie Sarraute, née en 1900, morte en 1999. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de son parcours? Qu'est-ce que les lycéens, les lycéennes doivent savoir de son parcours pour aborder cette pièce de la meilleure manière, Swann's pièce?
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on va pas se lancer dans une biographie complète et exhaustive du travail de Nathalie Sarraute. Moi, si je peux donner juste quelques éléments qui pourraient être intéressants pour les lycéens de connaître et de savoir un peu manipuler, je pense qu'on peut remonter quand même à la fin des années 30 à la question des tropismes, voilà, qui est un recueil de Nathalie Sarraute dans lequel elle commence déjà à étudier ce qu'elle définit comme des petits mouvements très indéfinissables, en fait, justement, qui affleurent comme ça à notre conscience, parfois sans qu'on l'ait voulu, et qui révèlent une certaine vérité enfouie sur les individus, sur les êtres, sur les émotions ressenties, etc. Donc peut-être essayer d'aller manipuler cette notion-là en lisant pourquoi pas quelques extraits de ce recueil. Et puis, me semble-t-il, une autre étape importante qu'on pourrait utiliser pour mieux comprendre cette pièce, c'est aussi le travail qu'a effectué Nathalie Sarraute dans ses essais sur le roman qui sont rassemblés dans L'ère du soupçon dans les années 50.
L'ère du soupçon, qui est le titre de ce recueil.
Ce recueil qui rassemble plusieurs essais de Nathalie Sarraute et qui, notamment, remet un peu en question le personnage romanesque traditionnel hérité de Balzac, et qui va opérer justement un soupçon sur le personnage, ce qui l'amène à utiliser ces désignations H1, H2, par exemple, au lieu de leur donner des noms précis. Et puis, ce qui aussi l'amène à utiliser beaucoup le motif de la conversation. C'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans ces pièces, mais aussi dans ces ouvrages de manière plus générale. Voilà, donc je pense qu'il y a ces deux éléments qui peuvent être intéressants à utiliser pour les élèves.
Est-ce que c'est important que les élèves sachent ce qu'on entend par l'expression « nouveau roman », ce qui désigne ce courant littéraire auquel on a rattaché, certains ont rattaché Nathalie Sarraute, ou ça, c'est pas absolument fondamental pour une élève de première?
Il me semble que ça peut être quand même intéressant de l'évoquer en cours pour un professeur et de voir comment Nathalie Sarraute a été une sorte d'accompagnatrice en quelque sorte de ce mouvement, même si évidemment on ne va pas s'y appesantir outre mesure. Je pense qu'on ne va pas commencer à aller chercher du côté de Michel Butor, du côté de Robrie, etc.
Mais il y a l'idée de renouveler les formes traditionnelles de la littérature en général.
On peut évoquer ce renouvellement des formes littéraires romanesques, également théâtrales, avec le nouveau théâtre, au milieu du XXe siècle, dans lequel s'inscrit Nathalie Sarraute.
Swann's pièce a rappelé, Nathalie Sarraute, c'est une autrice de romans, d'essais aussi sur la littérature. Un petit mot peut-être, Hélène Batty-Delalande, sur la manière dont le théâtre arrive dans son parcours, à quel moment, de quelle manière?
Alors, ça va me permettre de répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi finalement ce texte semble peut-être un peu moins choisi par les enseignants pour les présenter aux lycéens? Il y a peut-être cette idée d'une œuvre écrasante de cette dame qui a 82 ans, rendez-vous compte, lorsqu'elle écrit et elle publie ce texte si jeune et si dynamique, et qui creuse toujours le même sillon depuis 1932, depuis qu'elle a commencé à réfléchir à cette question des tropismes. C'est une écrivaine qui a une intuition, elle a le sentiment, elle le dit elle-même, d'avoir fait une découverte, cette idée que le lieu propre de la littérature qu'elle a envie d'écrire, la littérature moderne, c'est de saisir ses mouvements, ses émotions qui sont vraiment entre la sensibilité et le langage, qu'on ne dit pas, qu'on ressent, qui double la conversation ordinaire, qui double les conversations aussi mondaines. Ça l'intéresse beaucoup, la conversation mondaine. C'est un réservoir de mots creux. Et dans les mots creux, eh bien, il y a quelque chose. C'est ça qu'elle montre, en fait, hein. Quand il y a du creux, c'est qu'il y a un cœur battant, un cœur brûlant, et parfois brûlant dans tous les sens du terme.
Peut-être, je mentionne juste, je vous laisse reprendre après, mais que tropisme, hein, le titre de ce livre des années 30, la racine de ce mot, c'est le grec tropos. Enfin, il y a l'idée de se tourner, d'où l'idée du mouvement intérieur, voilà, qui caractérise ce que Nathalie Sarraute essaye de décrire, juste pour que tout le monde comprenne bien, voilà, le lien entre ce texte et cette idée du mouvement indéfinissable.
Ce mot tel qu'elle le réemploie vient de la biologie. Et c'est Sarraute qui l'invente à nouveau en lui donnant cette dimension de mouvement de la conscience. Et c'est devenu, dans l'histoire littéraire française au XXe siècle, quelque chose effectivement que les lycéens sont censés connaître. Tropisme égale Sarraute et réciproquement. Voilà. Alors le théâtre, mais pourquoi le théâtre? Quelle bonne blague, dirait Sarraute. Et d'ailleurs, elle écrit du théâtre pour se divertir. Elle le dit elle-même quand elle en a marre d'écrire des romans ou des essais exigeants. Eh bien, elle écrit une petite pièce radiophonique. Et pour un oui et pour un non, a été écrite avec cette espèce de sentiment de soulagement, de divertissement, de légèreté. Alors on se dit, si c'est ça qui est léger pour elle, le reste... Bon, c'est une autrice sérieuse. Il n'empêche que c'est drôle. Alors, le théâtre, c'était une proposition qu'on lui a faite à la fin des années 60, 1966 exactement, où, pour une radio allemande, un ami de Sarraute lui a dit « Mais voilà, tu ne t'occupes que des conversations, de ce qui se joue sous les conversations. Je pense que ça peut être bien pour la radio. » Et Sarraute a répondu « Mais non, pas du tout. Comment peut-on faire entendre ce qui ne se dit pas ?» Et ce qui ne s'entend pas, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui double le langage qu'on verbalise. Alors à la radio, il n'y a que la voix. Il n'y a que ce qui est verbalisé. Comment voulez-vous que je fasse entendre ce qui est le cœur de mon travail ? Puis finalement, elle s'est dit, bon, c'est un défi intéressant. Et à partir de là, donc, elle a observé une forme d'alternance entre l'écriture de textes en prose, des récits bon, qui ont une forme de plus en plus atypique par rapport au roman ou au récit. Et puis, jusqu'à Pour un oui ou pour un non, qui est sa dernière pièce de théâtre. Et ça aussi, ça explique peut-être l'inquiétude ou la réticence de certains enseignants qui se disent « Mais s'il faut maîtriser toute l'œuvre de Sarraute pour aboutir à Pour un oui ou pour un non, ça fait beaucoup pour des élèves. » Et moi, je crois qu'en fait, il suffit d'avoir ces quelques éléments-là, d'avoir en tête effectivement l'inquiétude de Sarraute à l'égard du langage des formes héritées, mais que c'est bien suffisant.
Et ça peut même être, j'ajouterais que ça peut même être une bonne porte d'entrée, au fond, dans l'œuvre de Sarraute en général, parce pour cette dimension très profondément ludique hein, que vous évoquiez à l'instant. Je précise que, je l'ai dit, hein, la pièce a été publiée en 1982, mais en fait, elle a été créée en 1981, non seulement pour la radio, mais pour France Culture. Donc, j'ai plaisir à le mentionner. C'était pour un atelier de création radiophonique produit par René Farabet à l'époque, et on en entendra un tout petit extrait tout à l'heure. Je voudrais vous faire écouter la voix d'une lycéenne. Elle s'appelle Méline. Elle a lu la pièce et profite de votre présence ici à tous les deux pour vous adresser une question au sujet de cette pièce.
Bonjour Book Club. J'ai découvert Pour eux, pour un nom cette année et j'ai trouvé ce livre intéressant. L'aspect qui m'a le plus touchée, c'est le fait que H2 a donné un motif futile, ce qui a rendu perplexe H1. De plus, ils incarnent deux tempéraments opposés. H1 fait partie de la bourgeoisie, donc lui, il vit dans le bonheur matériel. Et H2, il est vif, il est plus spontané, sentimental et sensible. Je voudrais profiter de la présence de vos invités pour vous demander que nous dit cette pièce sur la fragilité de l'amitié. Merci de votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Méline, pour cette question. Qui veut répondre, Swann Spies?
Alors oui, bah je peux tenter. Je l'ai évoqué un tout petit peu déjà en début d'émission, mais oui, c'est cette fragilité de l'amitié. Elle tient, comme le disait Hélène Batty de Lalande un peu plus tôt, notamment à tous ces petits cailloux semés tout au long en fait d'une amitié. C'est pas juste le c'est bien ça qui vient faire voler tout en éclats. D'ailleurs, il n'y a pas d'explosion véritable. On est plutôt dans quelque chose qui implose petit à petit.
Hein. Le c'est bien ça, je le précise, hein, juste étant cette expression, pour le dire vite et mal, que l'un des deux hommes, des deux protagonistes de la pièce, a prononcé à un moment dans une conversation sur un ton en réalité un peu condescendant et qui a cristallisé comme ça une forme de vexation chez l'autre, pour le dire très vite.
Exactement. Et je crois que cette amitié qui se fragilise jusqu'à effectivement se détruire ou pas d'ailleurs en fin d'œuvre, effectivement c'est très paradoxal parce qu'on a l'impression d'une espèce de réconciliation mais dans le désir de rupture, ce qui est assez étonnant. Cette fragilité, elle tient aussi au fait que justement on va se rendre compte progressivement que ces deux hommes ne se comprennent parfois plus, ont un regard trop opposé sur certaines choses, sur leur vision du monde, sur leur vision de la vie. Parfois, justement, ont des mots qui, sans le vouloir, vont, comme vous le disiez, intérioriser une certaine forme de condescendance, par exemple. Il y a des mots comme ça qui deviennent très très forts, dont on va étudier même en détail la signification, le mot condescendance, le mot de raté aussi, ensuite. Cette opposition est quand même assez forte, hein, lorsque dans la fin de la pièce, on s'aperçoit qu'on est face à une lutte à mort, hein, puisque c'est le terme utilisé par le personnage. Il y a vraiment les deux personnages choisissent un camp, hein, véritablement. Donc on a affaire à deux personnages qui se rendent progressivement compte que déjà il est difficile de trouver les mots justes pour dire véritablement ce que l'on pense, et puis surtout qui se rend compte aussi du poids des mots qui peuvent blesser sans qu'on le veuille.
On sent dans la lecture que fait Méline, ou en tout cas j'ai eu l'impression que son cœur penchait un tout petit peu plus pour l'un des deux personnages, pour H2, donc l'homme vexé à l'origine, pour le dire vite. Elle le trouve plus spontané, sentimental, sensible. Est-ce que c'est une piste intéressante, ça, la manière dont un personnage peut nous toucher plus que l'autre? Est-ce que ça, c'est possible pour un lycéen ou une lycéenne de se prononcer dans une copie ou dans un oral en disant ce que, voilà, l'effet que fait un personnage, la manière dont il se rapporte à lui?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut quand même éviter, je pense en particulier dans la dissertation, ne pas être trop dans de pas verser dans le psychologisme des personnages, rester quand même dans une étude littéraire, d'un texte littéraire. Bon. Cependant, peut-être plutôt dans l'épreuve orale, si l'élève choisit de présenter cette œuvre en deuxième partie de l'épreuve orale, là, au contraire, on va donner vraiment, on va mettre l'accent sur une appropriation personnelle de l'œuvre, une expérience personnelle. Il faut dire « je ». Il ne faut pas se contenter de faire un résumé qui n'aurait pas d'intérêt. L'examinateur sait très bien de quoi il est question. Donc, il faut vraiment s'engager. Et là, effectivement, on peut dire qu'on a pensé cela, on a ressenti ça à propos de ce personnage ou de ce personnage. Et justement, pour H2, je finis juste là-dessus, c'est intéressant de constater que les élèves, au départ de l'étude du texte, trouvent H2 complètement fou. Voilà, hein. Et clairement, il est paranoïaque, mais briser une amitié de 20 ans sur des broutilles, pareil, mais comment ça? C'est pas possible. Et progressivement, en fait, ils s'aperçoivent, les élèves, que finalement, H2 n'est peut-être pas si déraisonnable et que peut-être cette révolte un petit peu écorchée contre les normes sociales, elle a quand même quelque chose d'intéressant, notamment à leur âge où ils se projettent déjà, en fait, dans la société.
Oui, c'est ça. Voilà. On l'a pas dit, mais c'est aussi, on le comprend à vous écouter, hein, une pièce qui parle de la place que chacune occupe dans la société. Et 16, 17, 18 ans, c'est vraiment l'âge où on commence à se projeter dans qu'est-ce qu'on va devenir plus tard. Et donc ces questions-là, elles sont aussi très très présentes dans le cœur et dans l'esprit des élèves, on le comprend. Et puis je précise aussi, j'imagine que ce qui est important lorsqu'un élève se rapporte à la pièce, ou ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, chez un personnage ou un autre, c'est toujours de justifier cette impression, de faire référence à qu'est-ce qui dans le texte a produit cette émotion ou cette impression.
Tout à fait, c'est absolument essentiel, que ce soit dans la dissertation, dans l'analyse, dans la présentation, justifier toujours tout ce qu'on avance, notamment par des citations précises. Hein. On peut retenir d'ailleurs assez facilement certaines répliques de la pièce qui sont très marquantes, certains mots justement qu'on va étudier, qu'on va essayer de disséquer comme ça. Bon, ça peut être très utile pour montrer que voilà, on a pris à cœur l'étude de la pièce et qu'on arrive à se frayer un chemin à l'intérieur de manière efficace.
On va continuer à parler de cette pièce de Nathalie Sarraute, donc Pour un oui ou pour un non, juste après cette chanson de Bertrand Belin qui porte le même titre que cette pièce, une chanson qui date de 2013. Je ne sais pas si elle a été inspirée à Bertrand Belin par cette pièce en quelque façon, mais en tout cas, il y est question d'une dispute et de l'ombre d'une rixe.
Ils vont se voler, ils vont se voler dans les plumes. Ils vont se voler, ils vont se voler dans les plumes. Oh, oh, oh. Pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non, à qui les mains dans ce buisson d'imbéciles? Les mains dans ce buisson d'imbéciles, pourquoi se battent-ils au bord d'un chemin? Animal, viscéral, vicinal, communal, national, international, pourquoi se battent-ils au bord d'un chemin?
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Chez moi, tout est en mouvement intérieur. Ça remue sans arrêt, c'est des mouvements intérieurs invisibles, psychiques. Généralement, ce ne sont pas des choses qui me sont arrivées à moi, mais ce sont des choses que j'ai senties passer, si l'on peut dire, et quelquefois, il y a très très longtemps. Comme cette phrase, par exemple, qui a fait « pour un oui ou pour un non », j'avais entendu quand j'étais jeune, où quelqu'un a dit « c'est bien ça ». Et puis ça m'est revenu brusquement, mais combien d'années après? Et tout d'un coup, ça s'est mis à vivre, à se développer, et ça a fait tout le sujet de la pièce. Quand il arrive quelque chose, c'est tellement rapide que généralement je l'oublie, comme tout le monde. Et c'est quand je travaille, quand je cherche des points comme ça, de rupture, dans lesquels quelque chose se met à vivre et à bouillonner, où il faudrait trouver un langage, des images et tout ça, que je trouve tout d'un coup des moments comme ça. Je ne vois pas les personnages, je les entends parler, et puis je ne vois pas de scène, je ne sais pas comment ils sont, ces personnages, où ils sont. Alors, je ne voyais pas du tout une scène, un espace scénique, rien de pareil. Alors, le metteur en scène pouvait vraiment faire ce qu'il voulait.
La voix de Nathalie Sarraute dans une archive de France Culture, elle était interrogée par Daniel Salnave dans l'émission À voix nue en 1992 et parlait de sa pièce de théâtre Pour un oui ou pour un non, au programme de notre book club aujourd'hui à destination tout particulièrement des lycéens, des lycéennes qui révisent le bac français cette année, puisque la pièce fait partie des œuvres au programme du bac. On en parle avec vous, Hélène Batty de Lalande, et avec vous, Swann Spies. On vous retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Hélène Batty de Lalande, il y a pas mal de choses qui sont dites dans cette archive. Est-ce qu'il y a des fils qu'on peut tirer de ce que Nathalie Sarraute vient de dire à propos de cette pièce, pour poser des choses importantes à son sujet?
Oui, au moins deux. Enfin, les deux qui me paraissent peut-être les plus importants sont les suivants. Elle dit, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive, et elle le refait elle-même. Elle le performe, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est bien ça qui a laissé comme un écho en elle jusqu'à ce que ça ressurgisse au moment où elle écrit la pièce. Et peut-être que pour les lycéennes et lycéens d'aujourd'hui, il se passe quoi en fait dans la pièce? Où il s'est passé quoi? l'écume de la vie quotidienne, ce qui surgit à la surface des mots, des attitudes. Et pourtant, c'est ça qui arrive. Donc ça, ce serait la première chose. Peut-être que le travail de Nathalie Sarraud, dans cette pièce, comme dans l'ensemble de son œuvre, eh bien, c'est de renverser peut-être ce qu'on a l'habitude de considérer comme important ou non important. Là, ce qui arrive, eh bien, c'est la révélation d'une dissonance, d'une incompréhension, d'une hiérarchie. Donc ça, ce serait la première chose. Réfléchir sur ce qui compte et ce qui va suffire à constituer une intrigue, une pièce. Voilà. La deuxième chose importante, c'est quand elle dit qu'elle ne voit rien. Elle ne voit rien, ne voit pas de personnage, elle ne voit pas de mise en scène.
Elle les entend parler.
Mais elle les entend. Voilà. Donc il n'y a que des voix. Il n'y a que des voix. Et quand on lit ses œuvres, ses récits, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des voix, des présences, on a envie de dire conscience, hein, même si elle n'était pas spécialement férue de psychanalyse. Mais bon, en tout cas, des personnes qui se heurtent, qui se frottent, qui se rencontrent. Ça se passe en général pas très bien. Mais au théâtre, est-ce que finalement, on peut tout faire tenir sur deux voix? Ben oui. Et en l'espace de 35 pages, quand on lit. Et quand on entend la pièce, c'est également très court, ça passe très vite. Et ça suffit à faire surgir tout un monde et toute une société.
Et ça apprend... Enfin, c'est aussi pour les élèves à resituer dans une histoire du théâtre. Il y a quelque chose de très spécifique du théâtre du XXe siècle qui se joue là. C'est vraiment pas... une pièce comme les pièces du théâtre classique, du XVIIe ou même du XVIIIe, etc. Il y a quelque chose de novateur là-dedans.
Alors, de novateur, oui et non. Elle s'inscrit dans une histoire déjà longue tout de même, puisque ce qu'on appelle le nouveau théâtre commence dès la fin des années 40, avec les bonnes de Genet, etc. Donc, ce travail de dépouillement... des oripeaux, enfin, c'est-à-dire des vieux habits du théâtre français, du théâtre à la rhétorique, du théâtre du verbe. Alors le mot verbe, ici, il faut l'entendre, celui du langage travaillé. Bon, c'est quelque chose qui est détricoté, reconfiguré dès la fin des années 40. Donc là, on est quand même au début des années 82, enfin 80, les choses se jouent autrement. C'est pas parce que c'est une nouvelle romancière qu'il faut la voir comme une nouvelle dramaturge, pas tout à fait tout de même. Bon. Mais ce qu'elle fait, c'est que s'il n'y a plus de personnages, s'il n'y a plus vraiment d'intrigue, s'il n'y a plus vraiment de construction tragique, comique, traditionnelle, eh bien, elle met tout sur le langage.
Exactement.
Et ça nous fait penser à quelqu'un d'aussi canonique que Marivaux.
Ouais. C'est ça, en fait, on peut tirer des fils dans cette longue histoire du théâtre, mais c'est une pièce dont on peut dire, je crois, sans mentir, qu'elle porte notamment sur le langage. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait de cette pièce dans la toute première version, donc, de la pièce créée pour la radio et pour France Culture en l'occurrence. C'était dans le cadre d'un atelier de création radiophonique produit par René Farabet avec Laurent Terzieff et Jean-Claude Jay, pardon, dans les deux rôles principaux.
Eh bien, tu m'as dit il y a quelque temps, tu m'as dit, quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, enfin, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre. Tu m'as dit... C'est bien, ça. Juste avec ce suspense, cet accent.
C'est pas vrai, ça peut pas être ça. C'est pas possible.
Mais tu vois, je t'avais bien dit. À quoi bon?
Non, mais vraiment, c'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement?
Mais oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve. Je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Bon. Quelle réussite, d'ailleurs.
Oh, peu importe, je sais pas, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça.
Non, pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien, un étirement bien. Avec un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça, Oui, c'est le cas de le dire. Ce « ça », précédé d'un suspens, t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre? Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
C'était pourtant une si belle occasion de laisser tomber, de ne plus jamais revoir un ami de toujours. Un frère, je me demande ce qui t'a retenu.
C'est que ce n'est pas permis. Je n'ai pas eu l'autorisation.
Voilà, nous y sommes au cœur du point de départ de cette querelle qui est exposée par l'un de ces deux personnages au tout début de la pièce. Ce fameux « c'est bien, ça » et cette intonation. C'est rigolo de s'amuser d'ailleurs à le dire dans la bonne ou l'intonation qu'on imagine. Qu'est-ce qui se joue dans ce moment-là de la pièce, Swann Spies? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage-là? On est vraiment, toute troisième page de la pièce, là, c'est le tout début.
Alors, il se joue évidemment beaucoup de choses. Il y a eu déjà une certaine tension depuis le début de la pièce pour savoir quel est le nœud finalement qui a provoqué cet éloignement. Et chez Achin, donc chez le personnage qui pose la question finalement, il y a à la fois une envie de comprendre et en même temps une incompréhension. On le voit, on le sent très très clairement. Ça ne peut pas être ça. Redis-le. J'ai du mal à entendre. J'ai du mal à comprendre. Et donc là, on est face à justement ce dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire ce petit rien qui finalement contient en fait tout. Enfin, contient beaucoup en tout cas. Et qui va justement mener ensuite à ce qui est abordé à la fin, c'est la question de l'autorisation qu'on lui aurait donnée à H2, hein, de rompre ou pas. Et donc ça amène aussi à la question du regard d'autrui, du regard de la société justement sur une telle broutille, entre guillemets, puisque on va le désigner finalement H2 par cette périphrase qui est celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Et donc on a évidemment le retour, la boucle est bouclée par rapport au titre. Et juste deux choses que je voudrais juste rajouter rapidement, parce que ça me vient à l'esprit en écoutant ce passage, plus spécifiquement par rapport aux lycéens, deux choses importantes. La première, c'est que pour bien comprendre cette œuvre, effectivement, elle est assez courte, elle est assez facile d'accès par son vocabulaire, mais en même temps, elle peut être difficile parce qu'il faut lire entre les lignes. Il y a beaucoup de choses qui sont très implicites, très sous-entendues, parfois très ironiques. Donc l'écoute de la pièce, pas seulement la lire, mais l'écouter dans des versions comme celle qu'on vient d'entendre, qui est absolument magnifique, où je pense à la version avec Trintignant et Dussolier, qu'on écoutera peut-être ensuite.
Oui, qui est une version avec Trintignant et Dussolier, qui avait été réalisée, mise en scène par Jacques Doyon, pour une version pour la télévision à l'origine.
Exactement. Et la deuxième chose que je voudrais noter, c'est aussi, on parlait d'activité ludique tout à l'heure, le côté ludique de s'approprier cette pièce. Il y a un truc qui marche très très bien avec les élèves, c'est la mise en voix, en fait. La mise en voix de ce « c'est bien ça » sur 10, 20 intonations différentes, pour bien saisir justement les toutes petites nuances très subtiles et qui vont aussi les aider à s'entraîner pour la lecture à haute voix, puisque pendant l'épreuve orale, il y a une lecture à haute voix du texte sur lequel ils vont devoir faire l'analyse.
On s'imagine très bien comment les professeurs peuvent s'amuser en effet à faire dire ces quelques répliques,
très,
et en particulier le fameux « c'est bien ça » à leurs élèves. Et on entend aussi dans cet extrait à quel point ça aide de l'entendre interpréter cette pièce. Parce que en fait, quand on se la lit, il faut se la lire à haute voix, il faut jouer à y mettre une forme d'intonation, Hélène Batty de Lalande. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'intonation.
Oui, et ce qui est frappant, c'est ce contraste entre une économie de moyens extrême, il y a quelques mots, pas grand-chose, une langue très simple, et d'ailleurs des phrases qui souvent sont interrompues, tout est suggéré, et pourtant ici, les comédiens qu'on entend s'en donnent à cœur joie et cabotinent, il y a une forme d'accentuation de tous les possibles comiques, pathétiques, tragiques, tout ce qui peut se jouer à ce moment-là, et avec si peu, ce qui se joue, et je vais renouer le fil de l'amitié par lequel on était entré dans la pièce tout à l'heure, finalement, ces deux idéaux ou deux conceptions de l'amitié qui se dessinent progressivement. D'un côté, une amitié qui peut-être va toucher au cœur nos lycéennes, nos lycéens d'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure à travers la question de Méline, une amitié idéale, idéaliste, fondée sur l'authenticité, la confiance, la loyauté, Et puis, une amitié qui renvoie peut-être au code de la société. Une amitié qui est du côté de règles du jeu. Une amitié où, effectivement, on peut se permettre, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Bah, je t'ai donné un coup de main, t'as réussi, bravo. Alors, ce bravo, c'est pas du sarote, hein, pardonnez-moi, mais tout se joue dans ce bravo, là encore, où le c'est bien ça. Et donc, jusqu'où peut-on aller dans l'ironie face à autrui? Est-ce que les mots peuvent blesser? Est-ce que dans le choix d'un mot, le renvoi à un souvenir commun, à des valeurs, à des représentations? Eh bien, ce qui est en jeu dans cette dispute, puisque c'est le terme choisi par le ministère, hein, pour orienter l'étude de cette pièce, est-ce que la dispute, ce serait pas peut-être davantage contre un H1 et un H2, une réflexion au sens très sérieux du terme, disputatio, hein, on réfléchit, qu'est-ce que c'est que l'amitié? Et à partir de quoi, finalement, on peut discuter, jusqu'où doit-on accepter ou ne pas accepter ce que dit l'autre?
Et oui, ça me fait penser à quelque chose, parce qu'on parlait de fil aussi littéraire à tirer en lien avec cette question de la dispute. Il y a du Molière aussi là-dedans. Hein. On pense évidemment à la première scène du Misanthrope, Alceste et Philinte, l'hypocrisie sociale. Qu'est-ce que c'est qu'être un véritable ami? Bon, ben, on est là-dedans aussi. Hein.
Et ce qui se joue dans cette dispute, et je le dis aussi en pensant à ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la pièce, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la position sociale qu'on occupe dans la société, puisqu'on le comprend dans la suite de cette conversation entre ces deux hommes, ce « c'est bien ça », c'est bien ça. Il est venu en réponse à au fait une petite vantardise de l'un des deux hommes, hein, qui racontait un petit succès qu'il avait eu, on ne sait pas exactement dans quel domaine, mais peut-être que c'était dans le domaine professionnel, il est fait référence, on devine, on suppose que l'homme qui a prononcé cette phrase, qui a été vexatoire pour l'autre, il a une position sociale assez bien assise. On nous dit que voilà, il a eu une promotion, il fait beaucoup de voyages pour son travail. Et dans une conversation, l'autre homme qui n'a pas cette position, qui a une position, disons, peut-être un peu plus marginale dans la société, s'est à un moment vanté d'un petit succès qu'il avait eu. Et celui qui a la position plus établie a prononcé cette phrase sur un ton qu'on peut dire que l'autre a reçu comme condescendant. Qu'est-ce qui se travaille dans cette pièce de la question de voilà comment chacun occupe une position sociale, peut-être même voilà des tensions entre différentes positions sociales que les uns et les autres occupent. Comment ça se joue dans la pièce et comment on peut travailler ça avec les élèves?
Vous le disiez, hein, il y a effectivement la question de l'intégration sociale, de la position sociale, elle est importante, hein, puisque effectivement H1 de son côté appartient au camp de ceux qui luttent pour créer la vie autour d'eux. Je reprends ses propres mots, les mots du personnage, alors que H2 est plus à l'écart, est un peu en contradiction avec les normes morales, les normes sociales de la bonne société qui l'entoure, et son bonheur n'est pas le bonheur de la paternité comblée, de la réussite professionnel, c'est ce rien qu'on appelle le bonheur, mais qu'on ne sait pas vraiment définir. Hein, donc, il y a cette opposition de deux mondes, hein, qui apparaît notamment à la fin de la pièce, entre un monde fermé de tous côtés, qui essaye de bien définir les choses, qui nomme et catégorise tout, hein, du côté de H1 et du côté de H2, un monde plus fluctuant, mais qui est pris par H1 pour des sables mouvants dans lesquels il aurait peur de s'enfoncer. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans la pièce, c'est à un moment le renversement aussi de l'accusation. C'est-à-dire que, effectivement, H2 reproche à H1 son ton condescendant vis-à-vis de son c'est bien ça. Mais en même temps, un peu plus tard dans la pièce, H1 va lui faire le reproche inverse, puisque lorsque les deux hommes semblent à la fois se pouvoir se réconcilier peut-être devant la fenêtre, et là, à ce moment-là, H2 dit « la vie est là », hein, que l'autre prend pour une citation implicite de Verlaine et le prend comme une espèce de reproche caché. Hein, voilà. Tout ça renverse un peu les choses et remet une pièce dans la machine, en fait. Hein. On remet constamment, Méline disait tout à l'heure, remettre de l'huile sur le feu. C'est un petit peu ça, effectivement. Et donc, on retrouve hein, ce ce système un peu tout le long de la pièce.
On va écouter un autre extrait, un moment de la pièce où les deux hommes convoquent deux voisins de l'homme chez qui on est, de l'homme qui a été vexé par cette phrase, pour exposer leurs différends et s'adresser à eux, un peu comme si ces voisins pouvaient se faire les juges de cette affaire. On l'écoute dans une autre version, la version mise en scène par Jacques Lassalle et repris par lui pour la radio, pour France Culture, avec Hugues Kester et Jean-Damien Barbin dans le rôle des deux hommes et Véronique Alain et Nicolas Bonnefoy dans le rôle des voisins.
Voilà. Je vous présente. Je vous en prie, cela ne vous prendra pas longtemps. Il y a entre nous un différend.
Oh, mais nous, vous savez, nous n'avons aucune compétence.
Si, vous en avez plus qu'il n'en faut. Voilà de quoi il s'agit. Mon ami, là, un ami de toujours.
C'est lui dont vous m'avez souvent parlé. Je me rappelle, quand il a été souffrant, vous étiez si inquiet.
Oui, c'est lui. Et c'est pour ça, justement, que ça me fait tant de peine.
Ne me dites pas contre vous. Après tant d'amitié, vous m'avez toujours dit qu'il a été à votre égard.
Oui, parfait. Je lui en suis reconnaissant.
Alors, pourquoi ?
Eh bien, je vais vous le dire. Je lui ai, paraît-il, parlé sur un ton condescendant. Pourquoi le dis-tu comme ça, avec cette ironie ? Tu ne veux plus faire l'essai ?
Mais si. Je le dis sérieusement. Je l'ai vexé. Il s'est senti diminué. Alors depuis, il m'évite.
En effet, ça paraît pour le moins excessif, juste un ton condescendant.
Mais vous savez, la condescendance, parfois...
Ah, vous comprenez.
Enfin, je n'irai pas jusqu'à ne plus revoir, mais...
Mais... Oh, vous voyez, vous pouvez me comprendre.
Je n'irai pas jusqu'à dire ça.
Si, vous irez. Vous verrez.
Un autre extrait de cette pièce pour un oui ou pour un non dans la mise en scène proposée par Jacques Lassalle et enregistrée pour France Culture dans les années 2010, je crois. Fiction radiophonique, on peut réécouter sur le site de France Culture. Les élèves peuvent la trouver en ligne, voilà, s'ils ont envie d'entendre une proposition, une interprétation de cette pièce. Pour introduire donc cette intervention très étonnante, très surprenante de ces deux voisins qui arrivent comme ça, qui sont convoqués. Hélène Batty de Lalande. Même question, qu'est-ce qui se joue là ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette étrange intervention de ses voisins ?
Alors, la dispute, elle ne va pas se résoudre toute seule. Donc, il faut l'arbitrer. Et à trois reprises dans la pièce, il y a l'intervention d'un motif qui est celui du tribunal, du jugement social. À la première occurrence, au premier moment où ce motif intervient, on a le sentiment que H2 délire un peu. Méline parlait de « il est un peu fou, il est un peu… » bon, quelque chose comme ça. Deuxième motif du jugement, eh bien là, on a effectivement ces braves gens, les voisins sont des braves gens, c'est précisé dans le texte, et donc un tribunal réel qui est présenté, donc on entend à la radio, on reconnaît les voix, et c'est pour cela qu'il y a un personnage, une voix féminine, ça permet de ponctuer, en fait, il ne faut pas en trouver autre chose que ça. Et puis il va y avoir à nouveau, à la fin, une sorte de projection fantasmatique, mais à deux cette fois-ci, d'un jugement futur et qui se terminerait forcément mal. Et c'est ça qui va conduire les deux hommes à s'accorder sur le fait que il faut rompre sans plus de procès. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se joue ici ? Eh bien, c'est cette interrogation. Pourquoi, finalement, a-t-on le droit de rompre ? Qu'est-ce qui fait qu'une amitié est nulle et non avenue, socialement, individuellement, et puis encore plus qu'individuellement, presque inconsciemment, de façon instinctive, ce qui est à l'œuvre dans tout ce que dit H2 depuis le début de la pièce. Eh bien, finalement, à la fin de la pièce, oui, quand plus rien ne va, quand on n'a plus d'idéaux en commun, quand les valeurs, finalement, nous séparent, on a le droit de rompre, à la fois socialement, individuellement, rationnellement et puis instinctivement. Et c'est là-dessus que les deux personnages vont finir par s'accorder et donc on pourrait presque dire que H2 a gagné à la fin de la pièce.
Et ça, c'est une expérience que les élèves lycéens, lycéennes peuvent faire aussi, peut-être. Peut-être que ça leur est déjà arrivé dans leur vie de se disputer avec un ami et d'avoir envie de convoquer d'autres amis, par exemple, et d'exposer les raisons de la dispute. En deux mots, parce qu'on arrive au terme de l'émission, Swan Space, mais là-dessus, ça, c'est quelque chose à quoi les élèves peuvent se rapporter aussi.
Bah, tout à fait. C'est pour ça que cette pièce, elle peut avoir des résonances très fortes hein, chez les élèves. Il ne faut pas en avoir peur de cette pièce. Et puis, là, vous parliez de la possibilité d'un débat, par exemple, d'un tribunal arbitral hein, qu'on pourrait organiser en classe, mais qui pourrait être une activité, encore une fois, pédagogique tout à fait intéressante et qui pourrait effectivement mettre en œuvre des qualités d'argumentation en lien aussi avec toute la littérature d'idées, par exemple, que les élèves ont au programme par ailleurs. Donc, il y a une infinité de possibilités que cette pièce ouvre. Et donc, voilà, je pense que c'est une pièce qu'il faut mettre en avant.
On espère qu'on vous aura donné envie de la mettre en avant. Mais pour l'heure, le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et comme chaque mercredi à 7h arrive le moment de nous intéresser à la littérature jeunesse, et c'est vous, Raphaël Bott, qui allez nous en parler aujourd'hui. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde.
Merci d'être là Raphaël, vous êtes journaliste, vous suivez ce domaine littéraire depuis plusieurs années. Il y a 15 jours a été révélé le nom de la lauréate du prestigieux prix Astrid Lindgren, et c'est l'autrice française Marion Brunet qui a remporté le prix cette année.
Alors, on surnomme ce prix souvent le prix Nobel de la littérature jeunesse pour résumer la place qu'il tient dans le paysage littéraire international. Alors, rien que ça, c'est aussi parce qu'il a été créé par la Suède en 2002 et le pays venait de perdre une de ses grandes écrivaines pour la jeunesse, la fameuse Astrid Lindgren, qui est entre autres la mère de Fifi Brin d'Acier. Et donc, ce prix porte son nom. Il est aussi généreusement doté puisque le lauréat ou la lauréate reçoit 5 millions de couronnes suédoises, c'est-à-dire à peu près 460 000 euros, Mathilde.
Quand même, c'est pas mal.
Il récompense des auteurs, des illustrateurs ou bien des associations qui œuvrent pour le rayonnement de la littérature jeunesse. Pour vous donner une idée, le premier à l'avoir reçu en 2003, c'était l'américain Maurice Sendak.
C'est-à-dire l'auteur du grand classique et toujours aussi génial, Max et les Maxi-Monstres.
Voilà, exactement lui. Mais l'ont eu aussi l'anglais Philippe Pullman, donc à La Croisée des Mondes, la belge Kitty Crotter, pour la série par exemple Poca et Mine, l'allemand Wolf Elbrouwer, que vous connaissez peut-être avec de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête.
Évidemment.
Et bien sûr, Jean-Claude Mourleva, alors là c'est l'enfant océan, Jefferson, la rivière à l'envers, qui fut le premier français en 2021. Et cette année, il y avait 265 candidats. Et Flore Vesco, Grégoire Solotareff, Marie Desplechin, Timothée de Fombelle étaient aussi en lice pour la France.
Mais c'est donc Marion Brunet qui a eu le prix. Alors comment est-ce qu'on pourrait présenter son œuvre ?
Alors elle s'illustre principalement dans le roman pour les adolescents. Et des auditeurs connaissent peut-être aussi son nom car elle publie des romans noirs en littérature générale, L'été circulaire ou encore Nos armes, c'est elle. Et parmi les caractéristiques de son travail, on notera d'ailleurs qu'elle explore avec minutie la porosité assez passionnante entre le roman pour les adolescents et celui pour adultes. En fait, avec elle, la frontière est assez mince, même si elle veille à laisser toujours un peu plus de lumière et d'espoir dans ses textes pour les plus jeunes. Et les thèmes qui lui sont chers, ils traversent indifféremment ces intrigues, quel que soit l'âge des destinataires. Alors ça va être l'amitié, ça va être la force du collectif, la famille qu'on se choisit.
Alors, quelques titres, hein, Frangine, Dans le désordre, Plein gris. Sa bibliographie est déjà dense. J'ai cru comprendre pas mal peuplée d'héroïnes féminines, fortes et complexes à la fois.
Bah pour moi, c'est une des belles caractéristiques de ces romans. J'ai envie de vous parler en particulier d'Abigail Stenson dans Cent fois ni loi. Elle est assez inoubliable. Ce roman est un vrai bon western. Il est sorti en 2019. Il avait même reçu à l'époque la pépite d'or du salon du livre de Montreuil. Et le narrateur est un jeune homme qui se fait enlever par cette Abigail Stenson. Et elle, c'est une femme qui veut vivre comme un homme, une hors-la-loi, une meurtrière, une ambivalente, une attachante aussi, mais elle est dangereuse. Et puis, je vous parlerai aussi de Nolan. Elle, on la rencontre dans un autre de ses romans, dans un Marseille submergé. Nous sommes en 2052 et c'est le premier tome d'une trilogie intitulée Ilos. Elle, c'est une plongeuse, une déterminée, une une amoureuse et une intègre qui est prête à tout pour venger son frère dans un monde où les inégalités sociales sont encore plus aiguës qu'aujourd'hui.
Alors, Sans foi ni loi, c'était un western. La trilogie Ilos, un roman d'anticipation. Marion Brunet, autrement dit, expérimente des genres littéraires assez différents.
C'est vrai, et même si on retrouve toujours, je trouve, des traces du roman noir qui est un peu sa matrice, elle pose un regard sur la société. Je pense aussi d'ailleurs à un court roman qui est réaliste, qui est très fort, qui est implacable, Des rires de hyènes. Ce livre retrace le parcours d'un jeune prof de français pris au piège d'une classe et d'un élève en particulier, un dénommé Max, un cauchemar. Et c'est toujours une écriture à l'os, rythmée et sans fioritures.
Ce prix Astrid Lindgren 2025 est un beau prix donc.
Ben oui, moi je trouve que c'est un très beau prix. En fait, il est assez inattendu, ce sont des romans forts, mais qui ne sont pas forcément marqués par une écriture éminemment littéraire. Ils n'expérimentent pas non plus de nouvelles formes, mais je trouve que le choix du jury traduit surtout une vraie connexion avec son époque. Marion Brunet l'embrasse sans jamais tomber dans le roman à thème, et forte de ses convictions politiques et humaines, elle embarque dans ses histoires, elle aime ses personnages, comme elle semble aimer beaucoup les adolescents d'aujourd'hui.
Et on a bien l'espoir de pouvoir la recevoir un jour prochainement dans le Book Club Marion Brunet. Le dernier tome de la trilogie Ilos sortira à l'automne. À noter aussi que le numéro 332 de la revue des livres pour enfants était consacré. C'est une publication de la Bibliothèque nationale de France et du Centre national de la littérature pour la jeunesse. Il est consultable en ligne gratuitement. Le lien est aussi sur le site de la chronique Lecture Jeunesse. Un grand merci Raphaël pour cette chronique à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Et comme chaque jour, en fin d'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales grâce à vos suggestions. Et tout le monde peut jouer, y compris les lycéens et les lycéennes. Si dans un livre, vous repérez un passage qui mentionne une chanson, un air de musique, prenez ce passage en photo et envoyez-le nous à l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission. On en choisit un tous les jours pour nous quitter en chanson. Aujourd'hui, on remercie Julie qui nous a envoyé un extrait du roman Le Dernier étage du monde de Bruno Markov. Il a paru en 2023 aux éditions Anne Carrière. C'est un passage dans lequel il est question de l'implicite du langage. Il nous a donc semblé faire un petit écho à la pièce de Nathalie Sarraute dont nous avons parlé aujourd'hui. Le meilleur moyen de faire croire à Anna qu'on tombe amoureux, c'est d'y croire moi-même. La seule règle, c'est que ça reste implicite. Défense d'entériner par les mots ce que nos yeux se disent. Défense d'entrer en contact avec sa peau. Pouvoir nier demain que j'ai voulu la séduire. Les images ne sont que des interprétations, chacun est libre de se faire la sienne. Si Anna choisit d'y voir de l'amour, je ne suis pas responsable. Des milliers de gens font, chaque jour, la même erreur de sous-titrage. Et toutes les chansons qu'on entend dans le bar l'encouragent. I'm falling in love again, there's nothing I can do.
So long now, since I gave up my heart, I've kept it locked down. I don't wanna get it hard, so let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that I'm falling in love again? Ain't nothing I can do. I'm falling in love again, girl. This time it's with you. When I always the same, and I'm so tired of playing this game. You gotta tell me if you're gonna break my heart, 'cause I don't wanna take the chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that promise to hold on and I'll never let you go. I gotta have something to go on. Oh, I'm letting you know now.
Un très grand merci Hélène Batty de la Lande et Swann Spies d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute au programme du bac français cette année. On espère qu'on aura donné envie à tous et toutes de la découvrir cette pièce en la lisant ou en allant la voir sur scène. Elle est disponible dans une édition de poche folio. On peut aussi lire le profil bac que vous avez co-signé Swann Spies à son sujet chez Attier. Et puis on peut écouter la version radiophonique qu'en avait proposé Jacques Lassalle via le site de France Culture ou l'application l'application Radio France, de même qu'un très grand nombre d'archives dans lesquelles on peut entendre Nathalie Sarraute parler de son travail. Toutes ces références à retrouver sur le site de l'émission, et je renvoie aussi les lycéens à l'ensemble des programmes que vous propose notre chaîne pour réviser le bac. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vivien Demeyer, au son Grégory Wallon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Léa Weisgruss, Louise Hoth, Marianne Chassor, Lou Quevauvillé et Alexandra Laï-Begovic. L'émission se réécoute sur le site de France Culture ou l'appli Radio France.
LSD dresse le portrait des soldats de l'armée de terre nés dans les années 80. Cette fresque guide l'auditeur dans les coulisses de la formation militaire, des vallées afghanes au Sahara.
C'était le côté humain qui me plaisait. C'est pas le côté guéguerre, les pistolets, tout ça. C'était surtout le côté humain.
LSD, la série documentaire « J'aurais rêvé d'être militaire » d'Adrien Mora, réalisation François Tess, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Question du soir, première partie, un débat, France-Algérie, l'escalade est-elle sans fin ?
Quentin l'a fait.
Et puis dans l'actualité des idées et de la recherche, une question vaste, qu'est-ce qu'être un garçon ?
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 16h sur France Culture, c'est donc l'heure de la science, c'est QFD avec vous, Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Mathilde.
Quand j'étais lycéenne, Natacha, je vous raconte un tout petit souvenir, j'ai lu un roman qui s'appelait E égale MC2, mon amour. C'est un roman à l'eau de rose, un peu bébête. Ça pourrait être un peu le sous-titre de votre émission du jour, non ?
Ah oui, on continue d'être passionné par cette formule.
Bonne émission, Natacha.
Merci, bon après-midi.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.